Certains de nos lecteurs vous connaissent peut-être pas. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le groupe?
Donc on s'appelle Anavan Structure, on est un groupe français de quelque chose qui s'apparente à du métal progressif. On existe depuis 2009, on a sorti un EP, un album, Février 2011, et notre nouvel album qui s'appelle La Partition et sort le 21 avril prochain via Langbrech Records.
D'accord. Alors on peut le comprendre un peu en écoutant la musique, mais pourquoi le nom Uneven Structure?
Ça a été un concours de circonstances, surtout à l'époque, à l'avènement du mouvement djent et du mouvement progressif, où tout ce qui était structure géométrique était très à la mode, tout ce qui était un peu spatial, planétaire, était hyper en vogue, et ce qui s'est visiblement passé pour les gars du groupe quand ils ont trouvé le nom, c'est-à-dire que voilà, Uneven Structure. Et évidemment, ça s'apparente aussi à cette musique qu'on fait un peu chaotique, un peu déstructurée, un peu distordue. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.
D'accord. Comment tu définirais un peu votre style ou votre démarche? Tu l'as parlé, t'as parlé de metal prog, t'as parlé de djent.
Le djent, le metal prog, c'est plus des trucs auxquels on a été assimilés malgré nous.
D'accord.
Notre musique, c'est on s'applique vraiment à faire une démarche artistique intégrale, c'est-à-dire qu'on se charge nous-mêmes de tout le processus de la composition à l'enregistrement, au mixage, au mastering. On fait aussi les artworks, les visuels, les vidéoclips, nous-mêmes, du tournage à la post-production. On a Igor, notre guitariste, qui se charge de tout ça, qui possède d'excellentes compétences. Notre musique, c'est quelque chose, on essaie de faire quelque chose dans lequel on se donne pas de limites. On expérimente avec absolument tous les moyens qu'on a à disposition. On essaie vraiment de pouvoir transcrire ce qu'on a à dire en termes d'émotion, de ressenti, d'expérience personnelle, de façon aussi brute et décomplexée que possible, pour créer un mélange que certains qualifieront de métal progressif, que certains qualifieront de rock, auquel certains trouveront des influences jazz, psychédélique ou doom. Voilà.
D'accord, bon, ok.
Voilà.
Est-ce que finalement les comparaisons qui ne manquent pas de fleurir avec Meshuga vous fatiguent?
Non, pas tant que ça, parce qu'on assume, on est conscient de ça, et c'est parfaitement voulu. Les premiers morceaux qui ont été composés par le groupe au moment de la sortie du premier EP, Ape, étaient en effet très inspirés des rythmiques lourdes, répétitives, très graves, polyrythmique qu'on peut retrouver via des groupes comme Meshuga, auxquels se sont ajoutés plus tard des éléments mélodiques et atmosphériques qui nous ont valu évidemment les assimilations à des groupes comme Tesseract, et dont on se refuse absolument pas, on en est parfaitement conscient. C'est des groupes qu'on adore et des êtres humains qu'on adore également.
Ouais.
Maintenant, c'est plus une comparaison qui est viable à l'heure d'aujourd'hui malgré tout.
Et justement, dans le genre, là c'est mon avis à moi, est-ce que tu trouves pas que vous seriez peut-être plus proche d'un périphérie?
Même pas. On aime périphérie, mais c'est jamais un groupe dont on s'est vraiment influencé.
D'accord.
Aussi, nos influences, elles tiennent vraiment plus à travers de groupes, comme si on devait définir des influences musicales, comme Nine Inch Nails, comme Deftones, comme Tool, A Perfect Circle, ce genre de groupe.
D'accord. Ok.
Voilà.
Donc tu l'as mentionné, 2001, premier album Februs. 2011. Finalement, quoi de neuf depuis Februs, à part le nouvel album, je parle bien sûr.
Plusieurs changements de line-up, dont moi, qui suis arrivé dans l'année 2015. Des évolutions de line-up, du perfectionnement dans les compétences, beaucoup de concerts, de tournées avec des groupes comme Project the Hero, Textures, Tesseract, des dates dans plein de pays, en Russie, dans lequel on a construit une audience assez solide, dans lequel on a des fans vraiment fervents, une évolution dans nos manières de penser, dans nos manières de faire, une évolution dans nos compétences musicales, dans nos démarches artistiques, qui ont fait que voilà, la partition est à la fois quelque chose qui qui est identifié à la Cébrus et à Neven Structure, mais qui reste malgré tout complètement différent de ce que le groupe a pu faire à l'époque.
Et donc, comme tu le disais, tous ces événements, changement de line-up, les concerts, etc., tout ça, ça a pris 6 ans. C'est ça qui explique un délai aussi long ?
Pas tant. Ce qui a surtout pris aussi longtemps, c'est qu'après la sortie de Cébrus, les gars étaient un peu essoufflés musicalement et artistiquement dans la mesure où ils avaient dit tout ce qu'ils avaient à dire pour Cébrus. Donc c'est quelque chose qui a demandé un peu de temps de récupération, après quoi pendant 2 ans ils se sont concentrés à la composition pour au final se retrouver avec des choses qui étaient trop similaires à Cébrus, qui ne collaient pas du tout à la vision vers laquelle ils voulaient tendre. Donc le groupe s'est retrouvé avec l'équivalent de 2 albums qui ont tout simplement été jetés, qui ont été dégagés, quoi, pour qu'on revienne après sur des basses scènes, après avoir pu avoir le temps de vivre, de se refaire des expériences, des influences musicales, des influences artistiques, de retrouver des choses à dire en fait et du contenu. C'est à ce moment-là que le groupe a pu sereinement partir sur la composition et la production de la partition.
Mais donc, est-ce à dire que le cycle naturel du groupe risque d'être toujours assez long?
Je pense pas. Parce qu'évidemment, au travers de ça, il y a plein d'états transitoires qui sont passés. Je veux dire, je ne l'ai pas mentionné, mais en effet, les changements de line-up ont opéré là-dedans. Puis aussi cette recherche de façon de travailler. Maintenant, on est beaucoup plus tous confiants dans la façon qu'on a de faire les choses. On a un line-up soudé, solide et stable. On est tous en train de converger sur Montpellier quand jusqu'à maintenant on est éclaté entre Montpellier, Lyon, Paris et Londres. Et
J'avais lu Metz un moment, une base de non.
Aussi, c'est-à-dire que Igor et Benoît, les deux membres fondateurs du groupe, sont nés et ont grandi dans la région de Metz.
Ouais. D'accord, ok. Des Lorrains, ok.
Voilà, des Lorrains qui sont ensuite descendus à Montpellier. Bah, Donc, 2 semaines d'ensoleillement dans l'année, c'est pas beaucoup, quoi.
Ils ont... Ouais, je suis alsacien, donc je connais, hein.
D'accord.
Donc, tu penses que, sans dire s'il y a... Vous avez déjà des éléments de... Sans en dire beaucoup plus, mais vous avez déjà des éléments de ce que pourrait devenir la suite de la partition ?
Ouais, tout à fait honnête, on a tellement été absorbé par tout le processus qu'on n'a pas encore eu beaucoup le temps de se poser pour y réfléchir, mais on a quand même suffisamment de pistes pour partir par la suite.
Et pas en 2023 ?
Je parle de 2023, et je pense, je suis même quasiment certain, quand j'avance, que l'album prendra cette fois-ci beaucoup moins de temps que la partition a pris. Quoi.
D'accord.
Parce que voilà, on est beaucoup plus confiant dans notre démarche, on a une force de composition et de création qui est beaucoup plus forte qu'auparavant, des idées beaucoup plus claires, et une démarche qui est beaucoup plus stable et confiante. Quoi.
Voilà. D'accord. Et alors justement, pour toi, ton expérience, donc tu nous as précisé, tu as intégré le groupe en 2015.
C'est ça.
Finalement, comment on intègre un espèce de, enfin pas un collectif, mais un groupe comme un Even Structure, qui a l'air quand même assez compliqué, avec deux personnalités fortes, donc les deux membres fondateurs. Comment ça se passe? En plus, avec une musique relativement barrée, barrée dans le sens.
D'un processus, admettons, d'audition ou de recherche de musiciens ou quoi. Moi, je connaissais les gars depuis quelques années déjà, quelques années de tournée derrière moi. On s'est croisés plein de fois, on a passé plein de soirs ensemble, et déjà, dès le début, le contact humain s'est super bien passé avant même de considérer l'idée qu'un jour on ferait de la musique ensemble, quoi. Ça s'est passé naturellement. Précédent batteur, Jean, était dans The Algorithm, mais il était très chargé, très occupé avec les tournées de The Algorithm. Il m'a beaucoup demandé de faire un remplacement pour la même structure. Pour ce à quoi j'ai dit oui, et au terme de cette tournée sur laquelle j'ai fait un remplacement, ça s'est très bien passé. Donc, les circonstances ont fait que je suis resté en groupe de façon constante, et au final, je me suis fait de façon hyper fluide, quoi, puisque je connaissais déjà un peu les gars. Maintenant, ça a quand même été une expérience qui m'a assez transformé dans la façon de voir les choses, que j'avais plein de préconçus de mes expériences passées, j'avais des façons de faire qui ont évidemment été transformés. Déjà, le fait tout con de voir tes bandmates, enfin les gars du groupe, on, forcément, du coup, on ne répète pas toutes les semaines. Enfin, on va répéter que on va se caler une semaine ensemble avant les départs en tournée ou avant les moments clés. On va faire tout ce qu'il y a de productif et ce qui est nécessaire de faire en groupe ensemble. Et pour le reste, on travaille à distance. Donc ça, c'est peut-être un peu un truc un peu frustrant, mais c'est une façon qui est tout aussi efficace de travailler. Mais ça a été vraiment quelque chose, une expérience hyper enrichissante. Surtout sur un plan humain.
D'accord.
Dans la mesure où tu es face à des talents, des grands talents, des mecs hyper humbles, des mecs qui ont beaucoup d'expérience, que ce soit de la tournée ou de la vie en général. Et voilà, que ce soit les gars de Neven comme toutes les personnes qui gravitent autour, c'est un type de hyper enrichissant.
Et vu de l'extérieur, là, je sais pas quel est ton background ou tes groupes d'avant, mais c'est pas un cauchemar potentiel, un groupe de, pour, à défaut de mieux, metal progressive gent pour un batteur?
Ah non, c'est vrai. Tu sais, moi, j'ai fait mes tout premiers concerts professionnels avec Zoolet Six.
D'accord.
Un groupe de metal, après, ouais. Voilà, tu connais peut-être,
ouais.
Avec qui j'ai fait mes armes pendant 3 ans. En parallèle de ça, j'ai travaillé avec un autre groupe de bon voilà, là typiquement de gent parisien qui s'appelle Kalinja, qui pour le coup était très technique.
Ouais, j'ai été habitué. J'ai chroniqué leur dernier disque il y a pas longtemps, ouais.
Ah nice. Je suis resté avec eux 2 ans, jusqu'au moment où j'ai intégré la nouvelle structure de façon constante.
Mm-hmm.
Du coup, je me suis fait les armes dans des situations pressantes, puisque dans les deux cas, Zoolet Six et Kalinja, c'est des trucs où j'ai eu très peu de temps pour apprendre et maîtriser les répertoires. Et non, Eleven, c'est un rêve pour moi. C'est vraiment un rêve. Il y a ce qu'il faut de technique pour que ça présente un exutoire pour mon esprit de musicien à démonstration, même si c'est pas du tout ce que j'aime. Mais tu sais, c'est voilà, c'est une sorte un peu d'exutoire des fois de pouvoir un peu envoyer. Et en même temps, il y a un gros travail, un truc qui était tout nouveau pour moi. Un gros travail sur le placement, sur l'intention, sur les dynamiques. Il y a un maximum d'amplitude au niveau des nuances et du contraste dans la musique de la même culture, quelque chose que auquel j'ai rarement été confronté dans le métal auparavant.
D'accord.
Et là, c'est des paramètres qui étaient assez nouveaux à gérer pour moi, donc ça m'a fait me remettre en question complètement par rapport à mon approche en tant que batteur et aussi en tant que musicien, quoi, pour le coup. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup progresser, et non, c'est l'éclat. C'est franchement l'éclat.
Ok, juste pour mieux cerner, tes quelques batteurs modèles, ça serait qui?
Je suis à fond dans le jazz, tu sais, et il y a un gars qui s'appelle Mike Mitchell, qui doit avoir un peu plus d'un an que moi, qui doit avoir 22 ou 23 ans, qui joue avec Stanley Clark. C'est un des batteurs les plus impressionnants que j'ai jamais vu. T'as aussi Mark Juliana, qui a joué sur le dernier album de David Bowie, entre autres Black Star, mais qui a joué aussi avec Tigran Amersian, Daster Youssef. Après, évidemment, si je dois parler de batteur de métal, t'as mon premier grand mentor, ça a été Joey Jordison, le batteur de Slipknot.
Ouais.
Ça a ensuite été Mike Portnoy de Dream Theater. Ouais. J'ai idolâtré Ray Luger de Korn.
D'accord.
Voilà, ce genre de mec qui allie une prouesse technique, une puissance et une force de son et un côté si impressionnant sur scène. Roy Mayorga de Stone Sour aussi. Ça, c'est que des mecs que j'ai adulé en parallèle à plein de batteurs de jazz pour leur finesse, leur versatilité et leur recherche dans le son, quoi.
D'accord.
Et dans le rythme aussi, voilà.
D'accord. Si on revient à la partition, gros changement pour vous. Vous signez sur Long Branch.
Ouais.
De ma petite lucarne, vu que Februs c'était sur un label qui s'appelait Basic Records, ouais. Ouais. Ça paraît être une jolie progression. Comment ça s'est fait?
Ça s'est passé très bien, quoi qu'il en soit, parce qu'avec Basic Records, les mecs ont soutenu la même structure dès le début et ça a été une aubaine pour le groupe. Au moment où il a commencé, il a amené le groupe là où il devait. Maintenant, avec cet album, avec la partition, on avait vraiment le désir de sortir de cette sorte d'enclos gent auquel on nous a constamment affilié quand c'est pas nécessairement ce qu'on voulait, d'autant plus qu'avec la partition, on a fait quelque chose de complètement différent. Le problème étant qu'avec Basic Records, l'écurie Basic Records est quasi exclusivement liée au gent ou au metal progressif. moderne qui revient à peu près à dire la même chose.
Ouais.
Et du coup, on avait besoin de, d'élargir un peu notre champ de vision, et parmi les propositions qu'on a reçues au moment de la recherche, il y a Long Branch qui est venu et le feeling est passé.
Parce que eux, ils sont plus orientés metal rock alternatif, hein, une espèce de truc assez bizarre.
Voilà, c'est-à-dire que chez eux, tu trouves autant des Contortionist que The Interfere ou Drowning Pool carrément. T'as un line-up carrément éclectique, et en plus de ça, les mecs ils sont complètement frais dans leur démarche, ils en veulent à fond. C'est des espèces de geeks hyper spécialisés dans ce qu'ils font, et dès le début, ils ont drivé le truc. À aucun moment, ils ont interféré dans notre démarche créative ou artistique, à aucun moment, ils ont voulu se caler là-dedans ou transformer notre produit. Les mecs ont juste été là pour prendre ce qu'on avait à leur donner et le pousser le plus loin possible, ce qu'ils sont en train de faire là, à l'heure actuelle, et ils font depuis qu'on a signé avec nous, et c'est un vrai bonheur.
Mais donc, sans dévoiler de secret, est-ce à dire que ils vous ont signé avant d'écouter la moindre note, ou ils ont écouté et ils ont signé après?
Non, ils ont écouté la... On est rentré en business avec eux après qu'on leur ait fait écouter l'album en entier.
D'accord, donc vous avez fourni le produit fini.
Voilà. Bah, c'est-à-dire que l'album a mis tellement longtemps à être fini que dans la démarche de discussion avec les labels, on était déjà très avancé, quoi. Le produit était déjà quasiment 100% fini en échelle.
D'accord, ok.
Et c'est justement, voilà, c'est ce qui nous a permis aussi de leur faire comprendre la direction qu'on voulait prendre. On avait besoin de ce support pour faire comprendre aux gens quelle direction on voulait prendre. L'entourage professionnel qu'on constituait, c'était nécessaire. Parce que si on n'avait pas cet album, à ce moment-là, les gens nous auraient dirigés dans le sens que dans lequel ces bruits nous avaient amenés, ce qui nous a amenés là où on voulait, mais ce qui n'est plus là où on veut aller maintenant. Quoi. Donc cet album était nécessaire, quoi qu'il en soit, pour développer notre nouvel entourage professionnel.
Ça marche. Finalement, les questions idiotes, je le sais. Pourquoi avoir besoin de trois guitaristes à part vouloir ressembler à Iron Maiden?
Alors ça, c'est carrément salaud déjà. Mais tu sais, au niveau des ambiances de musique de Maiden, je peux pas capter, mais c'est un truc qui est assez riche. Il y a toujours quelque chose qui se passe en fond.
On est d'accord, il y a des textures dans tous les sens.
Voilà. Dès le début, Maiden Structure a été un groupe à trois guitaristes parce que la musique a été pensée et composée pour trois guitaristes. Dans la mesure où il y a toujours un rythme, un lead et des ambiances qui se baladent. Et alors ça, maintenant, les mecs se partagent ça de façon plus ou moins équitable. Mais voilà, on n'est pas le genre de groupe à avoir envie de passer six pistes de guitare superposées dans les samples. Là, on est là. Toutes les guitares que vous entendez sur scène quand on joue en live, elles sont jouées par nos trois guitaristes. Et donc voilà quoi, parce qu'au final trois guitares c'est plus ou moins ce que t'entends dans n'importe quel groupe de jazz, metal, folk ou quoi, c'est juste qu'il y a toujours en général des ambiances qui passent dans l'ordinateur. Avec Maiden, dès le début, le groupe a vraiment voulu avoir cette intégrité au niveau de ce qu'on voit sur scène, et donc voilà. J'adore Iron Maiden, j'ai une sorte de vivre pour leur picture disc, mais à aucun moment de temps d'aussi loin que ça, il n'a été question de leur ressembler.
Non, ok. Mais c'est vrai que je dois dire, j'y reviendrai, mais j'ai regardé la vidéo que vous avez sortie pour Incube.
Ouais.
Et je me rappelle d'une scène au début où justement on voit le groupe, pas forcément au début, je sais plus, où on voit le groupe en train de jouer, donc par l'arrière, donc on te voit toi d'abord, et puis on voit tous les mecs devant en arc de cercle, et c'est fait bizarre parce qu'on se dit il y a un mec de trop quoi.
Après, géométriquement, c'est intéressant dans la mesure où justement tu as quelqu'un au centre et t'en as deux de chaque côté, toi t'as notre chanteur Mathieu au centre, t'as les gars sont deux de chaque côté. Après, la symétrie, elle est aussi volontaire. Truc de trop, je sais pas. Maintenant, cette asymétrie, on l'a créée parce qu'en groupe, on a toutes des personnalités différentes. On n'a jamais été le genre de groupe à vouloir être bangé tous ensemble, tout en même temps, et chorégraphier nos shows. On est plus à vouloir développer et pousser nos personnalités individuelles au maximum et voir ce que ça peut donner. C'est-à-dire que si on a parmi nous qui sont complètement statiques, si on a parmi nous qui vont tomber par terre et jouer par terre, si on a parmi nous qui vont être bangés dans tous les sens, si on a parmi nous qui vont se lever sur ma grosse caisse quand je leur ai interdit de le faire, on est friand de cette espèce d'asymétrie, de cette espèce d'irrégularité. On n'est pas là pour faire un truc tout droit en ligne chorégraphié, quoi.
D'accord.
Tant dans les vidéos que dans les lives.
D'accord. Tu l'as déjà un peu abordé, mais moi ça me paraît intéressant de creuser. Donc comme tu le disais, il semble important pour vous de comment dirais-je, de montrer que vous faites pas que, enfin que vous gérez énormément d'aspects du groupe, puisque je regardais sur les bio en concernant Igor et Mathieu, il y a bien marqué production ou production et vidéo. Ouais. Finalement, vous gérez énormément de choses parce que vous voulez être en contrôle complet ou parce que c'est le do it yourself, vous aviez pas de thunes, il fallait le faire comme ça. Ou les deux.
Bah, au début, ça a été un petit peu de ça. Et puis ça s'est quand même très vite transformé en on a ce désir, en fait, on a un peu cette pudeur et cet attachement un peu comme un bébé. On n'a pas cette envie, en fait, de donner un produit qu'on a retravaillé dans tous les sens pendant plusieurs mois, plusieurs années, à un inconnu qui va d'une façon ou d'une autre se transformer, et quand même ça va dans la direction dans laquelle on va, ce sera jamais à 100% cohérent avec nos idées. Donc ça peut être très intéressant pour quelqu'un, pour admettons un groupe qui va fournir ça, un ingé son ou un producteur qui va pouvoir pousser le produit encore plus loin. Nous, on est un peu têtu et borné dans la mesure où, une fois que le processus de composition était fini, on avait une idée extrêmement précise de ce qu'on voulait, et on tenait absolument à ce que cette idée précise soit exactement retranscrite, quoi, sans la moindre transformation, sans le moindre parasitage. Donc il y a eu évidemment un peu cette démarche de do-it-yourself, parce qu'on n'avait pas de budget, et évidemment entre la production d'un album et la production vidéo, ça va très vite à des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros si tu veux faire ça bien. Nous, on avait les moyens techniques, logistiques et les compétences de le faire nous-mêmes, alors évidemment, il n'est pas question de s'en priver, quoi. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie, mais à l'arrivée, on a un produit qui est 100% nôtre, qui correspond à 100% à nos attentes et à la vision qu'on avait, et dont on est fier.
Ouais, mais alors est-ce que le risque c'est pas, et ça, est-ce que ça explique pas aussi le temps fou, relativement avec des guillemets, que vous prenez pour tout faire? Parce que le risque c'est que, tu sais, c'est les mecs qui ont un propre studio et qui peuvent passer tout le temps du monde qui veulent dedans, genre je sais pas n'importe quoi, Metallica ou je sais pas quoi, ils sortent jamais leurs trucs, ils sont jamais contents.
Non, c'est ça, c'est en effet le risque un peu qu'on a pris aussi, c'est que évidemment quand tu fais tout toi-même, t'es rarement forcé par des deadlines, t'es rarement forcé par l'emploi du temps de quelqu'un d'autre, t'es juste là à part faire ton produit, et la démarche artistique, elle s'arrête jamais. C'est-à-dire que tu prends n'importe quel morceau, même les morceaux que t'idolâtres, les albums que t'idolâtres, l'artiste qui les a créés pourrait toujours pousser plus loin le truc au niveau du mix, au niveau de la composition, au niveau de l'exécution instrumentale.
Ouais.
Toujours pousser plus loin, et c'est vrai que quand tu fais tout toi-même, la sagesse et la maturité résident dans la capacité à dire à un moment, c'est bon, c'est fini, j'arrête là, on est bien. Ça, c'est un truc, évidemment, c'est une décision, c'est un truc qui est hyper difficile à assumer. C'est un truc qui nous a pris beaucoup de temps aussi, mais c'est un truc qui reste fidèle à nous-mêmes, quoi. Donc c'est un risque, certes, mais ça reste malgré tout une démarche sur laquelle on a gardé un certain contrôle, quoi.
Et ce fameux stop, pour dire là on s'arrête, c'est une démarche, c'est une décision collective, où vous êtes fixé l'un de vous qui vous estimez le plus mature, tout ce que vous voulez, qui dit là, stop.
Non, c'est plus une décision collective, puisque évidemment, tu as les mecs qui sont un peu plus techniciens que d'autres dans le groupe, en l'occurrence, c'est Igor et Mathieu, qui est un peu style notre nouveau guitariste, qui sont responsables de la prod sur cet album, c'était quasiment explicitement Igor. Et Mathieu aussi qui a beaucoup travaillé dessus, mais on n'a pas de filtre dans notre démarche au sein du groupe, c'est-à-dire que si un truc marche pas 10 fois, 20 fois, 30 fois, et ben on va le dire, et on va forcer à personne les gars à répéter ça 10 fois, 20 fois, 30 fois, jusqu'à ce que ça plaise à tout le monde. On va pas faire de concessions à dire bon allez c'est chier, laisse tomber, là, ça me plaît pas, mais on va laisser passer. Non, il y en a le moindre entre nous qui est pas d'accord avec quelque chose, on va le dire, on va travailler avec ce problème. Donc quand on travaille à ça et quand on arrive au point, en effet, où tout le monde est content, là on sait que c'est bon. Donc évidemment tu as les mecs qui ont la production entre leurs mains, mais au-delà de ça, t'as tout le monde qui participe, et dans une même structure, il y a vraiment ce respect, quoi. C'est pas parce qu'il y en a un qui en fait moins que les autres que son avis aura moins d'importance. Tout le monde a son avis d'exactement la même importance. Et c'est ce qui nous permet d'avoir un truc vraiment où on s'arrêtera pas de bouger, donc tout le monde n'est pas 100% satisfait. Donc c'est vraiment un travail collectif là-dessus, même si les compétences techniques, seuls certains les ont plus que d'autres.
D'accord. Parlons un peu concert. Donc comme tu disais, tu l'as mentionné, vous avez tourné avec des groupes assez installés, Prothèse de Hero, Textures ou Tesseract.
Ouais.
Est-ce que tourner avec ces mecs-là vous a fait apprendre des choses?
Je pense qu'au niveau des gars à l'époque ou de Fébrus, où les gars avaient très peu d'expérience de tournée derrière eux, ça les a appris sur un plan instrumental et physique à gérer un peu le truc, parce qu'évidemment, nous, on est le genre de groupe qui aime faire la fête. On ne cache pas, on est connu pour ça, on aime faire la fête jusque dans les extrêmes. Maintenant, il y a quand même des réalités auxquelles tu es confronté physiquement, tu vois. Et ces groupes-là, dans un premier temps, c'est vrai que ça t'apprend un peu à gérer toi-même par rapport à toi, parce que tu les vois avec leur beauté, leur expérience, savoir jusqu'à quel point ils peuvent se permettre de tirer la corde avant que ça pète, ou toi, pas faire de conneries. Puis après, aussi et surtout sur un aspect logistique où on est très nous. Moi, depuis que je suis arrivé en groupe, j'essaie de mettre un grand côté là-dedans, parce que je suis un peu un maniaque de l'ordre, mais c'est vrai que on est typiquement le genre de groupe à jouer devant 2000 personnes et à décharger notre matos dans des sacs plastiques ou des housses molles pourries, tu vois. Et c'est surtout sur un aspect logistique, quand tu vois, admettons, des groupes comme Texture qui déchargent de leur gros van une armada de flycases rigides sur roulettes, où les gars sortent ça à la série, qu'en une heure, un plateau assez conséquent est monté, tu vois que c'est la même chose pour des groupes comme Meshuga, etc. C'est un truc qui te prend des leçons en disant, il y a un moment, si tu veux passer à l'état supérieur, il va falloir faire ça, et t'apprends super vite quand tu vois ces mecs-là. Déjà, parce que tu dis, en effet, c'est pratique au-delà de ça par ego, parce que tu dis, t'as pas envie de passer pour un con, éternellement, avec des sacs plastiques, quoi.
D'accord. Donc, tu l'as mentionné, élément très important quand même, l'aspect visuel, ne serait-ce que la pochette. Ouais. Alors, la pochette est assez surprenante. Quelle a été la démarche de création de cette pochette?
Cette pochette, elle entérine un peu le point clé de l'album, c'est-à-dire que donc, tu vois cet homme qui chute,
oui.
Avec son habit jaune, c'est en fait le protagoniste de la partition.
Ouais,
Il tombe un peu, il tombe et il se laisse couler. Et au-dessus de lui, tu as ce personnage qui essaie de le rattraper, lui c'est le personnage clé de Fébrus. Et cette pochette, elle dépicte un peu le moment de l'album où les deux personnages vont se rencontrer et où le personnage de Fébrus va avoir un peu un rôle protecteur, didactique sur le personnage de la partition. Où la partition, le personnage de la partition qui est un marin, va avoir du mal à évoluer ou va se retrouver confronté à une multitude de contraintes et d'expériences extrêmes et désagréables. Et donc voilà, c'est un peu ça synthétise cette rencontre entre les deux protagonistes des deux albums, puisque la partition en fait est inscrite dans la continuité de Fébrus. C'est un peu la suite de l'histoire, c'est un peu ce qui découle de Fébrus là-bas. Voilà.
D'accord.
Au niveau du concept.
Ouais. Ok. On finit toujours nos interviews par une petite des petites questions plus sur les goûts d'artiste.
D'accord.
Donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est des goûts. Donc voilà. C'est jamais simple, mais chanson préférée de tous les temps.
Chanson préférée de tous les temps.
Ouais.
Ok. Ah putain, ah ouais non, c'est vrai que comme ça tu prends de surprise.
Bah c'est fait pour.
Chanson préférée de tous les temps. Je dirais They Don't Care About Us de Michael Jackson.
D'accord.
C'est un truc qui me mettrait les mêmes frissons il y a 10 ans que si je l'avais écouté dans 20 ou 30 ans.
Ok. Et c'est très basé rythmique pour un batteur, ça m'étonne moins, mais.
Ah, c'est surtout ce rythme d'espèce de marche militaire et
ouais.
le message transmis qui te prend à la gorge, quoi.
Ouais, c'est ça. Premier album rock acheté?
Laisse-moi réfléchir. Je pense que c'était le premier album de Slipknot que j'ai pas acheté au moment de sa sortie, j'ai acheté beaucoup plus tard, mais c'était le premier album de Slipknot.
Le dernier que t'as acheté?
Putain, c'est compliqué.
Ouais.
Voilà.
Est-ce qu'il y a eu une chanson, un artiste, un clip vidéo, je sais pas quoi, quelle a été l'étincelle qui t'a fait devenir envie de devenir batteur?
D'un côté, il y a eu mon père qui a beaucoup travaillé avec plein d'artistes quand j'étais tout petit. Plein d'artistes, justement, du monde arabe, des musiques agnawa ou des musiques beaucoup plus pop. Et du coup, moi, j'ai toujours dormi à côté des batteries ou des percussions pendant les concerts. Maintenant, pendant des années, j'ai pas eu le droit de faire de batterie jusqu'à mes 13 ans. Où j'ai vu le DVD live de Phil Collins à Bercy.
Ouais.
Le DVD live qu'ils avaient sorti en 2004 pour sa tournée d'adieu. Et quand j'ai vu ce solo d'intro où tu as Phil Collins qui entre et après t'as son batteur Chester Thompson qui entre et après tu as Luis Conte qui arrive aux percussions, ça m'a mis des frissons, ça m'a terrassé et ça paraît, c'est vraiment un truc que j'ai regardé 100 fois, je peux le regarder 100 autres fois et ça me mettra toujours les mêmes frissons. Et à partir de ce moment-là, j'étais sûrement l'enfant le plus insupportable jusqu'au moment où mes parents finalement cédaient pour offrir une batterie.
D'accord, ok. Chanson que tu aimes le moins de Uneven Structure?
À jouer ou à écouter?
Tu choisis.
J'aime toutes les chansons d'Uneven Structure. Vraiment, il n'y en a pas une seule qui ne suscite pas un truc. Maintenant, aussi curieux que ça puisse paraître, c'est notre nouveau single qui sortira le 7 avril qui s'appelle Plus Sauté. J'ai beaucoup de mal à la jouer puisque c'est le premier morceau qui joue de notre tête et c'est pas un morceau technique du tout, simplement il doit tourner, il doit groover à fond et quand c'est le premier morceau et que t'arrives devant une foule de gens et que t'as pas eu le temps de t'échauffer, c'est un vrai calvaire à jouer correctement.
D'accord. Je vais terminer juste avec deux petites pour pas non plus prendre ton temps. Imagine que pour le prochain album t'as le choix d'un invité, n'importe qui, mort ou vivant, tu prends qui? D'accord, ok. D'accord. Il est pas simple hein, comme monsieur artistiquement, a priori, hein, mais bon.
Oui, mais bon, quand même. J'avais le choix, hein. J'avais le droit.
Ouais, non, bien sûr, mais pas de souci. Hein. Et puis, dernière chose, je sais pas, quel est ton album de l'année 2017 pour l'instant? Vas-y, pas de soucis.
Réfléchis deux secondes. J'ai arrivé. C'est vrai que ça prend vraiment par surprise ce genre de truc. Ah, je suis arrivé. Je me suis à mort concentré sur les albums de 2016. Alors, l'album 2017.
Mais on est qu'en mars, hein. Peut-être qu'il arrivera encore, hein, je sais pas.
Ouais, voilà. Je suis vachement impatient d'écouter le nouveau Die Hard Is Murder.
D'accord.
Après le retour de CJ, je pense que les mecs en ont sous le bras et sont prêts à casser quelques jambes.
Ouais, ça serait bien le genre.
Ouais, je suis impatient de voir ça.
Ok, écoute, un grand merci pour l'interview et puis tous mes voeux pour la suite.
Un grand merci à toi et à ta patience et puis à très bientôt, j'espère.
À bientôt, ciao.
Ciao, bonne soirée.
Également.